La voix des jeunes.
Développer notre esprit critique et notre regard sur la société.
Favoriser notre capacité à communiquer efficacement.
À nous exprimer.
Mais aussi à écouter.
Comprendre les médias.
Prendre confiance en soi. Apprendre à gérer notre stress et nos émotions.
Partager nos opinions.
Savoir collaborer.
Tout en nous affirmant.
La voix des jeunes.
Le programme radiophonique d'Info RC.
Radio associative en milieu scolaire.
Bonjour, vous êtes au CDI du Collège Saint-François d'Assise. Toute la semaine, nous réalisons des interviews de professionnels pour découvrir des métiers. Nous sommes équipés de la console de la radio Info RC de Roca.
Aujourd'hui, pour notre première interview, nous allons nous intéresser au métier de guide conférencière. C'est pourquoi nous avons demandé à Madame Granda Raquel de répondre à nos questions.
Bonjour Madame, nous sommes ravis de vous rencontrer et d'en savoir plus sur votre métier que vous avez exercé.
Vous êtes ou avez été guide conférencière. Pour quelle structure avez-vous travaillé ?
Pour plusieurs. En fait, j'ai travaillé pour moi-même, pas nécessairement directement comme salarié pour l'agence, mais il y a beaucoup de guides conférenciers, par exemple dans mon cas, à Paris, à Versailles, qui ont exercé avec plusieurs agences. Normalement, des agences à l'étranger. Donc, effectivement, comme je suis américaine, je travaille beaucoup avec les boîtes américaines pour montrer à les Américaines un peu sur la vie parisienne.
Et laquelle vous a le plus intéressée?
Comme j'étais à Paris à cette époque, j'ai fait quelques tours sur le centre historique de Paris, notamment la cathédrale de Notre-Dame, sur les thématiques de la Révolution française. Et aussi, il y avait une époque que j'habitais à Versailles. Donc, j'ai travaillé aussi dans le château et j'ai donné des tours, spécifiquement pour des familles. Moi, j'aimais beaucoup à travailler en famille parce qu'il y avait ce côté pédagogique. Donc, il y avait des jeux de pistes. J'avais programmé ou créé, développé différents programmes. Par exemple, trouver un maître pendant la Révolution française. Et donc, c'était vraiment comment aider les Américains, plutôt mes Américains, à comprendre l'histoire dans les milieux qu'ils étaient, à vraiment apprécier l'histoire française et tous les objets qu'ils étaient en train de voir.
Pouvez-vous nous présenter maintenant en quoi consiste le métier de guide conférencière?
Oui, en fait, un peu comme je fais aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis prof d'anglais au lycée de Jules Froment et il y a vraiment un côté éducatif, pédagogique. Donc l'idée, c'est à parler bien sûr sur un objet ou un site historique, mais pas seulement ça. Normalement, c'est à conter une histoire. Il faut conter des fois des anecdotes parce que, comme vous savez bien, que si vous êtes en classe et déjà on parle beaucoup sur des dates, des choses comme ça, ça après de moment, c'est pas trop intéressant. Donc plutôt, c'est à aider cette touriste, cette visiteur, à entrer dans le milieu et entrer dans cet espace et penser à l'histoire qu'il était en train de voir. Voilà, faire un peu d'imagination. Il y a des guides qui se mettent en costume. Il y a des guides comme moi qui fait des jeux ou voilà, qui fait des choses un peu différentes ou intéressantes. Et après, il y a des guides qui fait des choses mais peut-être plus traditionnelles. Ça vraiment dépend avec qui, c'est qui votre public. Donc, si c'est un public plutôt, on va dire, troisième âge, un peu plutôt âgé, peut-être ils sont vraiment plus intéressants dans l'histoire. Mais avec moi, c'est de côté des familles, avec cette idée de faire les choses plus fun.
Avez-vous donné des conférences?
Oui, pas beaucoup. Vraiment, c'est clair que j'ai eu quelques opportunités avec, une fois, j'ai avec des touristes, un groupe des étudiantes d'Abu Dhabi qui étaient là pour aussi apprendre un peu sur le métier. Donc à ce moment-là, je les ai amenés sur le site d'archéologie et j'ai donné une petite conférence sur comment ils peuvent trouver les objets et aider un public un peu en famille en fait. Donc c'était une conférence pour les aider. À les autres guides. Aussi, j'ai donné des cours d'anglais à Canem. C'est une des centres, il y a plusieurs ici en France, des fois liés à l'université ou des fois ça peut être un centre d'éducation pour les adultes. Ici en Ardèche, par exemple, il y a la formation qui est possible à Le Pradel, à l'Odomédia de Olivier de Serres. Vous avez l'opportunité de faire une licence professionnelle, en fait. Et donc, à ce milieu, j'ai donné quelques conférences pour aider les futurs guides.
Est-ce difficile de trouver du travail?
Bon, une des raisons que j'ai arrêté ce métier pour l'instant, peut-être je pourrais venir. En fait, le côté vraiment positif de ce métier, c'est qu'à l'instant que vous avez reçu votre carte de guide, en fait, il faut poser un dossier à la préfecture. Et donc, pour moi, c'était la préfecture de Paris. Et donc, après, vous pouvez le faire pour toute votre vie. Un côté totalement chouette, c'est que vous avez les entrées gratuites à toutes les... Oui, tous les musées, tous les milieux culturels et historiques pendant tous les pays. Par contre, moi, j'avais arrêté parce qu'il y avait cette problématique de la pandémie et COVID. Et en plus, à cette époque, donc, il n'y avait pas tous les touristes, bien sûr, il n'y avait pas des Américains. J'ai eu mon enfant et c'est un travail qui demande beaucoup, beaucoup de disponibilité les week-ends et l'été. Et donc, avec un enfant, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Plus tard dans ma vie, je ne vois pas pourquoi pas retourner à ce métier. Parce que voilà, quand vous avez votre carte, c'est pour la vie. Donc ça, c'est un côté aussi positif. Donc ça me donne la flexibilité quand il était petit avant l'école à faire mes horaires comme j'avais envie. J'ai travaillé, j'ai fait mes horaires avec des différentes agences. Des fois, j'ai dit oui, des fois, j'ai dit non, qu'il y avait une agence qui m'a demandé. J'étais auto-entrepreneur. Et voilà, en même temps, aujourd'hui, voilà, ça vraiment dépend où vous êtes. Des fois, il y a des personnes qui font ce métier en plus qu'autre chose. Ce n'est pas nécessairement facile, des fois, avoir des clients tout le temps, et ça dépend où vous êtes. Bien sûr, à Paris, à Versailles, il y a beaucoup de travail. J'imagine, même si je n'ai pas exercé, qu'il y a beaucoup de travail à Lyon aussi, toutes les grandes villes, parce qu'il y a beaucoup de touristes. Quelqu'un comme moi qui parle anglais et espagnol, c'était là, ça c'était mon marché. Après, je n'étais pas quelqu'un qui fait des tours pour les Français. Ça, c'est un peu bizarre pour un Américain de raconter l'histoire à les Français. Mais bon, c'était pour moi une opportunité de partager tout ça avec un autre clientèle.
Cela nécessite-t-il de préparer vos visites guidées?
Beaucoup. En fait, j'ai commencé quelques tours quand j'ai commencé la formation à Kenem, à Paris. Petit à petit, j'ai commencé à parler de quel est tel objet. Bien sûr, il y a les objets les plus populaires. Il faut toujours savoir comment parler de la Mona Lisa, Venus de Milo, voilà, des quelques pièces les plus emblématiques. Par contre, après qu'on commence à faire ça et on commence à voir qu'est-ce que c'est votre histoire, parce qu'il faut trouver, nous on a dit en anglais, I had to find my voice. J'avais besoin de trouver comment je vais présenter ces objets ou présenter ce milieu. Pour le Louvre, finalement, comme vous pouvez amener vos clientèles à une pièce ou autre, je me sentais bien immédiatement. Ça ne m'a pas pris beaucoup de temps à le faire. En lieu, par exemple pour Versailles, oh non. Ça, j'avais peur. Parce que, en fait, quand on entre dans un appartement de Louis XIV, on peut parler de tout. Et il y a même les murs. Il y a tellement de choses. Et donc, à ce moment-là, j'ai travaillé, en fait, à l'accueil plus d'une année avant que j'ai commencé à donner des tours. Donc, vraiment, ça dépend de votre passion. Il y a des guides qui aiment bien l'impressionnisme, l'art d'impressionnisme. Ils adorent être à Orsay. Il y a des guides qu'ils adorent ou qui vraiment voudraient partager l'histoire plutôt des arts contemporains et modernes, comme à Georges Pompidou. Et moi, j'étais vraiment plutôt sur le classique. Et ça prend du sens parce que c'était là qu'il y avait beaucoup de clientèle américaine.
Comment vous organisez-vous?
Moi, en fait, avec les agences des fois, on n'avait pas beaucoup de choix. Il y avait un parcours spécifique. OK? Et des fois, s'il y avait une cliente qui m'a cherché hors de l'agence, j'avais plus de liberté à proposer des choses que peut-être ils étaient intéressés. Donc ça, en fait, il y a un mélange. Il faut faire un compromis entre l'information que vous avez déjà préparée, les choses que vous connaissez bien, que vous entendez bien, et aussi les besoins et les attentes de la cliente. Donc, le client, il a une idée, on va voir ça, ça, ça. Après, il y avait des clients qui avaient seulement envie de voir le Mona Lisa. Take me to the Mona Lisa. Oh, ça, pour moi, ce n'était pas trop intéressant. Après, il y a des autres que j'ai dit, bon, on va faire un tour. On va voir deux, trois choses pour qu'après vous pouvez apprécier cette pièce, avoir une évolution de l'art, ou voilà, voir des choses pas seulement pour les peintures italiennes, mais Mésopotamie, Égypte, voilà. Donc, c'est une conversation avec votre clientèle, parce que bien sûr, c'est un service. Donc, pour que ça se passe bien, il ne faut pas qu'un client demande une chose et après, vous êtes en train de donner autre chose. Il faut vraiment être à l'écoute et les attentes de votre client.
Pendant combien de temps avez-vous exercé ce métier?
Bon, je me souviens super bien, le dernier jour j'ai eu mon tour, c'est le mars 9 2020. C'était le jour que le Louvre était fermé pendant la pandémie. C'est mon dernier tour. J'ai eu beaucoup peur parce que je ne savais pas quoi faire après ça. Vraiment, on avait la chance que, comme Guy dit, beaucoup de personnes qui travaillaient dans les milieux touristiques, il y a eu beaucoup d'aide de le gouvernement pour un moment. Et donc ça, c'est le dernier. Après, j'avais commencé ma formation en 2016. Donc, on va dire entre 6 et 7 ans de vraiment faire ça. Et quand j'habitais en Ardèche, en fait, avant ça, j'avais exercé un petit peu, pas comme guide conférencier, donc je n'avais pas le droit de parole. Parce que c'est ça, être guide conférencier, c'est avoir un permis, une carte de guide. Et vous avez le droit de parole pour donner d'informations dans un milieu. Si c'est, par exemple, le musée national, dans tous les domaines nationaux, qu'il y a des subventions de le gouvernement. Après, j'ai exercé comme accompagnement touristique ici en Ardèche. J'avais donné quelques tours, j'avais travaillé aussi à l'Office de tourisme pour quelques années. Et donc, on va dire, oui, entre 7 ans vraiment que guide conférencier et peut-être 10 ans dans le milieu du tourisme. Parce que, bien sûr, ici en Ardèche, il y a.
Vous avez exercé ce métier qu'en France?
Oui. En fait, en États-Unis, ça n'existe pas une carte. On est moins dans cette idée d'avoir, on va dire, un parcours très spécifique pour des professionnels. On peut faire des études en anglais et après, si vous voulez continuer à travailler vos études personnelles et faire un docent, parce qu'en anglais, on va dire que c'est un docent. Le musée des arts métropolitaines à New York, en fait, c'est vraiment, ils sont en train de juste voir si vous êtes expert dans votre domaine. Et ici, il y a vraiment un parcours spécifique que le préfecture ou le ministère de culture est en train de regarder. Vous avez fait une étude, un master en histoire des arts, une licence professionnelle. Il y a différentes manières de faire un dossier en demande. Vous n'êtes pas nécessairement, c'est pas nécessaire à avoir cette formation spécifique, mais par contre, ça aide beaucoup que votre dossier est accepté. Parce que j'ai eu quelques collègues, par exemple, qui ont eu quelques années des études en États-Unis, histoire des arts. Et comme ils avaient des expériences déjà comme guide, ils avaient la possibilité de transférer. C'est comme une validation des acquis d'expérience. Et après, le dossier est accepté. Mais dans quelques cas, pas tous. Donc, c'est sûr qu'avoir déjà ici en France fait ses études en histoire des arts, ou de médiation culturelle, ou différentes choses, il y a cette possibilité de demander cette carte. Par contre, la chose qui est claire, il faut avoir les langues. En fait, c'est pour ça que pour moi, même si je suis limitée avec français, le fait que je parlais anglais et espagnol, c'était pour moi le côté positif. Parce que, voilà, c'est les agences qui vont embaucher. Ils cherchent, même si votre public est français, des fois, il y a toujours la possibilité que vous êtes demandé à faire un tour en anglais ou en espagnol, en autre langue. Donc, c'est difficile d'avoir un travail sans avoir cette capacité de parler avec plusieurs publics.
Parlez-vous que français, espagnol et anglais ou parlez-vous d'autres langues aussi?
Non, juste les trois. Peut-être un jour italien, parce que j'aime bien, mais... Je n'ai pas encore, plutôt à ma retraite que je vais prendre le temps pour apprendre une autre langue.
qu'est-ce qui vous a le plus plu dans ce métier?
Ah, moi, c'était vraiment être dans le milieu magnifique. Quand j'étais à Versailles ou Paris, des fois, je me dis, bon, j'étais jamais fatiguée, en fait. Même si des fois, il y avait tout le monde, c'était stressant. On ne savait pas si la file d'attente avec les... Toutes les touristes, c'est très, très chaud. Il y a des inconforts. Vraiment, des fois, c'était compliqué physiquement. on est fatigué, on est à debout tout le temps. Par contre, il y a des moments que j'étais là en face, même le Mona Lisa que je connais super bien, j'ai vu je ne sais pas combien de fois, que j'ai continué à admirer. Juste les offres, le milieu, ça c'était chouette. L'autre côté pour moi que c'était sympa, c'est à le partager avec les personnes qui c'était son première fois. À voir la réaction de mes clientes quand ils étaient dedans le galerie des glaces. Pour la première fois, on entend toujours oh! Voilà, c'est magnifique, it's beautiful, you know. Et donc, du coup, pour moi, ça c'était toujours un plaisir, j'étais jamais fatiguée de ça.
Quelles sont les compétences requises pour exercer ce métier?
Bon, il ne faut pas avoir peur de parler en face de quelqu'un. Déjà, même si vous avez un petit groupe, il faut pas avoir peur de le contact avec un contact public qui change tout le temps. Il y avait des enfants. Moi, j'avais beaucoup des enfants aussi. Donc, moi, j'étais beaucoup, en fait, à parler en genoux. Parce que pour que les enfants puissent m'entendre, donc, il y a des personnes des fois. Et donc, il faut avoir ce côté physique. À être debout tout le temps, à marcher beaucoup, à ne pas être trop fatigué trop vite. Et avoir ce contact un peu des fois intime. Parce que, comme on peut imaginer qu'il y a des journées à Versailles, par exemple, qui a 28 000 visiteurs en journée, on est comme un peu des sardines dans l'appartement de roi. Donc, il y a vraiment le contact très, très proche avec les gens. Et ça, si vous êtes claustrophobique, c'est compliqué. Parce que c'est peut-être seulement en janvier et février qu'il y a le plaisir de lancer sur le musée et avoir un espace magnifique entre vous et votre cliente et les autres. Et ça, c'est très, très rare. Donc, voilà. Pour moi, ça, c'est vraiment important. Et avoir l'humeur. Parce qu'un guide qui, de temps en temps, n'a pas le sourire, voilà, l'humeur dans les moments stressants, qu'on est coincé, que voilà, il y a un objet qui a changé de place et on se trouve un peu qu'est-ce qui arrive, mon parcours à finir. Il faut avoir cette flexibilité, adaptabilité dans tout moment. Même malheureusement, j'avais pas mal de fois, et c'est très triste parce que c'est le cas aujourd'hui, d'être là quand il y avait des attentats ou des possibilités qu'il y avait un sac qui n'était pas perdu. Il faut tous les mois sortir du musée. Ça arrivait souvent. Et donc, il faut vraiment avoir la capacité de peser les clientes, de trouver autre chose à faire vite. Voilà, donc, il faut être fast on your feet.
Vous avez accueilli différents publics. Lequel vous a le plus intéressé et pourquoi?
Bon, pour moi, c'est les enfants. Parce que, en fait, des fois, les adultes, ils n'écoutent pas. Les adultes aussi, ils prennent le téléphone. Les adultes aussi, des fois, ils sont en train de je ne sais quoi, de faire autre chose. Mais les enfants, ils écoutent. Et donc, moi, j'ai adoré, quand j'ai eu spécialement les petites des fois, même s'ils étaient fatigués, même à les prendre par les mains, à vraiment jouer le jeu. Et à ce moment-là, quand on vraiment parle avec une famille, on parle à les enfants, les parents, ils sont contents. Parce qu'il peut juste lâcher un peu et laisser autre personne prendre. C'est stressant quand on voyage en fait avec nos enfants ou la famille et on ne connaît pas un milieu. Et donc, c'est vraiment un plaisir quand il y a un guide à juste dire, bon, maintenant, juste suivez-moi. Et on va voir des belles choses, on va faire un jeu, on va faire quelque chose. Et avec les enfants, c'était vraiment un plaisir.
Avez-vous une anecdote à nous raconter?
Une anecdote à compter. Oui, j'ai eu, ça m'arrivait pas mal de fois, des Américains qui, oh là là, des enfants qui étaient vraiment dans les histoires des mythologies grecques et romaines. Et bon, bien sûr, on fait notre étude, des fois on est un peu généraliste, spécialement au Louvre, qui a pas mal de choses. Mais waouh, j'ai transpiré. Parce que les questions qui étaient posées, les choses, il y a des bouquins qui s'appellent Percy Jackson. Je ne sais pas si dans votre classe, vous avez entendu des bouquins en anglais ou même maintenant, on voit les séries en français, en Disney. Il y a des élèves qui vraiment, ils sont dedans. Donc, c'est pour moi, ça c'était bien parce que ça m'a forcé à acheter deux, trois autres bouquins dans la mythologie grecque et vraiment être dedans. Donc, j'aimais bien quand il y a cette challenge qu'il y a une cliente à face vous qui, des fois, connaît plus que toi. Et donc, tu as dit, oh, bon, il faut vraiment que je ne lâche pas. En fait, même quand on pense qu'on connaît pas mal de choses, c'est toujours on a besoin de préparer, de regarder. Comme j'avais dit, le parcours change, des fois des expos qui arrivent, qui vont. Et donc, c'est un métier qui... Il y a des choses répétitives et après, à un côté, heureusement, qu'il faut se préparer tout le temps. Donc, pour moi, ça c'est une chose qui m'a sorti la tête. Oui.
Concernant votre parcours professionnel, quelle formation est nécessaire pour être guide conférencière?
Bon, pour moi personnellement, j'avais fait mes études d'université aux États-Unis. C'était rien à voir avec vraiment l'histoire d'art, tout ça. J'ai fait mes études en sciences politiques et communication. Et du coup, quand j'arrivais en France, je savais, bon, le fait que je parle anglais, ça c'est plus... ça prend plus de sens que je vais quelque chose en tourisme. En même temps, bien sûr, comme j'ai fait mes études en sciences politiques, il y a beaucoup d'histoire. Et j'ai toujours aimé l'histoire. Et comme moi-même, j'étais touriste, parce que j'ai visité plusieurs choses, c'est vrai que j'ai appris, en fait, à voir les autres guides. Ici en France, j'ai fait pas mal de tours en Ardèche, j'ai visité les choses. Et en plein de moments, on commence à apprendre qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Je vois la différence vite fait entre un guide qui peut-être est trop fatigué et qui n'est pas dedans. Et on perd un peu cette brille ou qui juste répète les choses beaucoup. Oh, ça, ce n'était pas des bonnes visites. Et les autres qui toujours restent un peu passionnés. Et donc, petit à petit, j'ai décidé de commencer une formation qui était ici en Aubena à cette époque-là, au Greta, d'accompagnement touristique. Après deux moments, j'ai travaillé à l'Office de tourisme et ensuite, j'avais accueilli un groupe des Américains ici en Ardèche. On a fait tout un parcours sur l'écologie. Aussi, c'était une immersion linguistique pour quelques adolescentes ici. Et finalement, ça me donnait cette idée parce que je rencontrais un guide conférencier qui habite ici en Ardèche, qui habite toujours ici en Ardèche. Et elle était tellement passionnée, bien que j'ai adoré son métier et j'ai commencé à regarder pour la formation. À cette époque, il y avait le Pradel qui avait fait ça. Et finalement, ce n'était pas fait. J'ai parti à Paris pour faire ma formation à Okina. Donc, la formation licence professionnelle. Donc, pourquoi je décris tout ça? Parce que finalement, il y a beaucoup de manières d'arriver à avoir la carte. Il y a un parcours un peu comme moi, pas trop tellement traditionnel. Mais après, il y a des autres qui font ces histoires d'art, des masters et tout ça. Ils arrivent à commencer à travailler peut-être au milieu, ou ils sont des artistes eux-mêmes, et ils se trouvent à peut-être faire une année comme moi de licence professionnelle, ou créer un dossier, une demande vis-à-vis ces expériences avec la préfecture. Donc c'est une demande pour une licence en carte. C'est pas. C'est le plus facile peut-être, c'est à faire cette formation d'une année ou deux, dans le milieu universitaire ou ailleurs, mais sinon il y a des autres manières aussi.
Vous êtes actuellement professeur d'anglais au lycée Jules Froment. Pourquoi avez-vous choisi l'enseignement?
Bon, encore le fait que je parle anglais, ça fait les choses plus faciles. Mais toujours comme guide ou comme professeur, on est dans le milieu de l'éducation. Et donc, à faire une ou l'autre, ce n'était pas trop compliqué de faire cette conversion d'une à l'autre. Et maintenant, aujourd'hui, comme j'ai mon enfant dans le milieu scolaire, c'est vrai, avoir le rythme scolaire, c'était plus facile que travailler les week-ends et l'été. Donc, je suis contente maintenant de donner mes cours. Et si vous me demandez de mes élèves, c'est sûr que j'ai des fois, donc pas seulement des cours d'anglais, mais un petit peu d'histoire aussi.
Quel niveau de classe avez-vous?
Ah, un peu de tout. J'ai des secondes, premières, j'ai quelques classes en BTS. J'ai des terminales aussi, un STMG. Donc, pareil, comme un guide et comme un prof, on fait un peu de tout.
Et quelles sont vos missions?
Comme prof,
oui.
Pour moi, c'est vraiment encourager les élèves à parler. Et cette année aussi, j'avais, ça c'était bien, organisé un échange avec un lycée à New York. Et donc, en novembre dernier, avec ma section oro, on avait visité en classe, il y en a fait un échange. Donc, on était à New York, à Bronxville. Les élèves, il y avait 23 qui ont voyagé. Ils ont resté dans les familles. Et il y a juste quelques semaines qu'il y en avait 23 Américains aussi au lycée. Donc, pour moi, ma mission, c'est vraiment encourager un échange et l'utilisation des langues.
L'interview touche à sa fin. Madame Granda, nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions.
C'était Maya et Sarah aux questions. Et
Lola à la technique.
Merci.
Merci.
Et merci à vous.
Merci. Merci.
C'était
La Voix des Jeunes,
un programme radiophonique réalisé en partenariat avec les établissements scolaires d'Aubenas et de sa région.